Comment dire et des nouvelles ?
Jean-François Cadet, Michaël Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit, une adolescente couvée par sa mère qui a de grandes ambitions pour elle. Un destin singulier confronté aux préjugés et au racisme, mais un destin qui se construit sur des bases solides entre deux cultures, entre poids du passé et de la tradition. Un roman d'apprentissage donc, qui est aussi un premier roman. Et il est particulièrement savoureux de par ses personnages, ô combien attachants, mais aussi de par la langue qu'il respire. Une langue teintée de nouchi, l'argot ivoirien qui rencontre le français des blancs à Abidjan, mais aussi parmi les boutiques de cosmétiques, les coiffeurs afro, les restaurants et les soirées coupées décalées de certaines rues de Paris. Noire précieuse d'Assia Djoulaït est parue chez Gallimard dans la collection Continent Noir, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Assia Djoulaït.
Bonjour.
Noire précieuse, c'est le titre du livre, et c'est comme cela que sa mère appelle votre héroïne, dont le prénom est Céleste. Qu'est-ce qui ressort de ce surnom ?
Évidemment, la couleur de la peau. La façon dont la mère de Céleste, Oumou, perçoit sa fille. Et puis tout de suite, dans les premières lignes du roman, la volonté d'une mère de valoriser sa fille et de lui dire « tu es ma noire précieuse, sois fière de ta couleur ».
Voilà, donc affiche-toi tel que tu es, affiche-toi tel que tu es né et affiche aussi tes ambitions.
Exactement. Et pourtant, Oumou n'assume pas ce qu'elle est elle-même, n'assume pas la couleur de sa peau. Donc c'est un personnage qui est très complexe, puisqu'elle encourage sa fille à être ce dont elle n'a pas été capable elle-même.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu une découverte hein, dans la première partie du livre, que celle de Céleste, lorsqu'elle se rend compte eh bien, que d'une certaine façon, Oumou ment à sa fille, ment aux autres et se ment aussi un petit peu à elle-même.
Se ment à elle-même, bien sûr. C'est, comme je l'écris, la sortie de l'enfance, puisque c'est le moment où Céleste découvre que sa mère est capable de mentir et que sa mère n'est pas capable de suivre les conseils qu'elle lui prodigue, à savoir sois fière de ce que tu es, puisqu'Oumou est donc à la tête d'une chaîne de magasins cosmétiques à Château d'Eau.
Donc Château d'Eau, l'un des quartiers africains de Paris.
Hein, exactement. Voilà. Donc des boutiques dans lesquelles on trouve évidemment des perruques, des produits pour soigner les cheveux et puis la peau africaine, mais on trouve aussi des produits qui détruisent, des produits de dépigmentation.
Voilà, et c'est à cause de ces produits-là que sa mère a été surnommée la femme feu. Alors, la femme feu, au départ, eh bien, Céleste croit que c'est un surnom qui est synonyme de puissance, que c'est la femme qui irradie. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est pas tout à fait ça. Effectivement, vous l'avez bien dit, Céleste croit jusqu'à assez tard que sa mère est puissante, qu'elle est une figure importante du quartier, qu'elle irradie, et puis qu'elle brille par sa beauté. Et en fait, c'est un surnom très moqueur, puisque si on l'appelle la femme feu, c'est que ses coumous se décapent la peau, et que donc sa peau s'est affinée, et qu'elle a rougi, qu'elle est irritée.
Nous sommes page 67 de votre roman.
Il arrivait aussi à Oumou de penser au jour où elle avait rencontré Omar. C'était au milieu des jeux de lumière des projecteurs bas de gamme, de la musique de Duxaga et des tables en plastique d'un des maquis les plus dynamiques de la rue Princesse, située dans la commune de Yopongon. Après les cours, elle servait les plats préparés par les tantis. Soupe de mouton, attiéké, viande de brousse, foutou ignam, agouti, hérisson, perdrix, écureuil, mangouste, poisson braisé. Oumou servait aussi les alcools frelatés qui cognaient fort la tête. Elle se faufilait entre les danseurs de coupés décalés, entre les groupes assis et debout qui chargeaient l'air de cet espace ouvert à la nuit, réjouissant et rustique, fait de restes de matériaux. En bordure des maquis jaillissaient chaque jour, aux alentours de midi, des vendeuses de poissons qui braisaient des carpes sur des fourneaux de barbecue, des bouchers maliens et nigériens, des cabiniers qui accostaient les passants, téléphones portables à la main, des vendeurs à la criée de papier hygiénique, de cubes de bouillon, de chewing-gum, de morceaux de pain et de bonbons. Tout ce monde pétillait pour accueillir les milliers de personnes qui se rendaient rue Princesse pour rigoler fort, manger beaucoup, boire un peu, danser toujours et séduire, évidemment. Dans l'humidité des nuits rythmées par les coupures d'électricité, dans le son des marmites et dans la clameur des mouches, les tables devenaient encore plus grasses, le sol plus sale et l'air s'alourdissait des odeurs de nourriture et de transpiration des corps en mouvement. Omar passait ses vacances estivales à Abidjan. Un soir de juillet, il était sorti avec quelques amis. Il était ce qu'on appelle un gars sans façon, peu attiré par les femmes, honnête et sérieux. Il s'était assis avec ses amis à l'une des nombreuses tables du Casamoulé. Oumou s'était penché près de lui pour déposer les plats commandés sur la table. Son cou, son buste éveillèrent l'odorat d'Omar, dont les pupilles se dilatèrent. Une odeur, presque un goût, émanait de la jeune femme. Elle allait et venait de table en table, et, chaque fois, ses effluves laissaient derrière elle de longs sillages de sensualité. Oumou ne sentait comme personne. Après le départ de Bosso, elle avait commencé à se dépigmenter la peau.
Il y a tout un marché de cosmétiques, hein, Sadio Light, justement, à propos de la dépigmentation. C'est un marché vraiment colossal. Oumou, vous le disiez, vend elle-même ce genre de produit dans sa boutique, dans ce fameux quartier parisien de Château d'Eau. Et cette activité-là, commercialement parlant, ça marche très très fort. Il y a vraiment une très forte demande.
Bien sûr. Je lisais récemment un article du Monde dans lequel il était écrit qu'à l'horizon 2024, on allait avoisiner les 125 milliards de dollars sur cette industrie du blanchiment. Donc c'est énorme.
Voilà, vous venez d'employer le mot blanchiment. Alors il se trouve que ce point d'actualité a un petit peu rattrapé votre roman. Vous avez peut-être vu que le géant américain Johnson & Johnson avait décidé de stopper la vente de produits éclaircissants conçus pour l'Asie et le Moyen-Orient, et que L'Oréal justement avait annoncé la semaine dernière qu'il allait retirer ces mots blanc, blanchissant, éclair de ces produits. Alors c'est un petit peu la queue de comète de la mort de George Floyd aux États-Unis et des débats enflammés sur le racisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Sadio Light? Je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est un coup de com' de la part de L'Oréal ou que c'est la prise de conscience d'un véritable problème?
Non, je pense que c'est un coup de com'. Je pense que c'est très hypocrite puisque ça ne les empêche pas de blanchir via Photoshop leurs égéries. On le voit encore aujourd'hui, que ce soit Beyoncé, des icônes qui parlent beaucoup à la communauté afro-américaine et même, en règle générale, les jeunes un peu partout dans le monde. Donc non, je pense que c'est hypocrite et je pense que la prise de conscience vient un peu tard.
Donc on retire le mot, mais on va continuer à faire de l'argent avec ce genre de produit.
C'est ce que je pense.
Oui, alors pour Céleste, ce n'est pas un vrai problème, parce qu'elle, elle est noire de peau pas très claire, hein, donc, mais ça ne lui pose absolument aucun problème, elle ne s'est jamais réellement posé la question finalement.
Bien sûr, elle ne s'est pas posé la question, et surtout, elle s'est rendue compte de cette couleur, de cette teinte plus foncée que celle de sa mère, à travers le regard des autres. Et c'est... ça pose la question du colorisme qui, là, est un problème intracommunautaire où, effectivement, il y a une hiérarchie en fonction des teintes et où on considère que plus on est clair de peau, plus on réussira dans la vie parce qu'on sera plus beau, plus belle et qu'on aura plus d'opportunités.
Et donc, elle est un petit peu isolée dans son quartier sur ce point-là parce qu'elle, elle est plutôt, sans jeu de mots, elle est plutôt bien dans sa peau, quoi. Vous dites qu'elle est un peu disgraciée.
Oui.
On n'en sait pas beaucoup plus au début. Bon, on a quelques kilos en trop, quoi. C'est ce
exactement.
Que... Mais quelques kilos en trop, eu égard au canon de beauté parisien, pas oui. Eu égard au canon de beauté ivoirien.
Exactement. Et ce que je trouve très beau chez Céleste, quand je l'ai imaginé, c'était d'imaginer cette jeune fille qui finalement évoluait avec confiance, mais qui, par le regard des autres, encore une fois, était infériorisée à cause de sa peau.
On n'a pas le choix, on est déjà là. God a cessé, nos parents nous ont calé. On n'a pas tout le pied, mais on est calé. Y'en a qui ont déjà, malgré les jets. Mais y'a pas qu'on peut te récompiller. Y'a du temps que tu vis, dis Allah Wakba. Si t'as la foi, on dit Alléluia. T'as la santé, et puis tu pleures. Et se coucher dans les chiffres, on fait comment? Un jour sans Gaïa, c'est toi qui es fâché. Et les enfants de la rue, eux vont dire quoi? Sois borreur de ce que tu as. Enjaille-toi de ta vie sur terre.
Maxime Tobori.
On va tous faire de ce monde. C'est pas mieux, on va profiter.
En même temps,
on va tous faire de ce monde.
Un jour,
c'est pas mieux, on va profiter.
En même temps, hey, c'est toi.
si c'est chaud. Souvent c'est dur, des fois c'est zo. Y a des gens bien et des gens faux. C'est pour ça qu'on dit que le monde est fou. On est venu chacun dans son chacun. On va partir chacun dans son chacun. Sois bordé de ce que tu as. Man cool. Enjaille-toi de ta vie sur terre.
Naomi à la fille.
On va tous faire de ce monde. C'est pas mieux, on va profiter. On va tous faire de ce monde. C'est pas mieux, on va profiter.
En même temps, hey. C'est job, job, c'est job, job, c'est job. La vie est job. C'est job, job, c'est job, job, c'est job. La vie est job.
Augustin de Paris, Stéphane Kayanda, Mike Opu, Romain Kwaku, Nadez Dubiana.
Cette chose, Nash dans BMDN sur RFI, la go cracra du Jassa, hein, que nous avions reçu en mars dernier lors de notre passage à Abidjan. Nash, qui est une fervente porte-parole du Nouchi, hein, cet argot savoureux des quartiers populaires d'Abidjan ou de Babi. Hein, comme on dit, et cet argot donne vraiment une saveur toute particulière à votre roman Asia Julite, une saveur pleine de verve, pleine de truculence. Vous parlez le Nouchi?
J'ai appris le Nouchi grâce à des amis et puis grâce à mes rencontres du côté de Château d'Eau. Donc je ne le parlais pas initialement, mais j'avais l'habitude de travailler dans ces quartiers pour préparer mes cours. Donc je me posais en café, j'y restais et j'entendais à longueur de journée ces expressions et je me suis dit mais enfin c'est pas possible, il faut essayer de les retranscrire. Et ça tombait bien parce que ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de retranscrire l'oralité, toutes les formes d'oralité. Et donc j'écoutais, j'en parlais à des amis et je me disais mais enfin il faut essayer de construire une histoire autour de ça. Et je suis tombée sur internet sur un dictionnaire incroyable, nouchi.fr, qui recense toutes les expressions, tous les mots de vocabulaire, etc. Donc j'ai appris comme ça.
Bon, alors on va faire une petite interview nouchi, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup d'expressions, hein, comme ça que j'ai pioché un petit peu dans votre texte. Fionton.
Alors, fionton, ça dépend du contexte, mais fionton, on peut dire par exemple, il va te raconter des bêtises, fionton, etc., etc. Ne le calcule pas.
Voilà, et tout. Voilà. C'est et comme tout, ça que tout. Moi, j'ai trouvé. Alors, je parle vraiment sous votre contrôle. Hein. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, parce qu'en plus, il y a la prononciation aussi. Hein.
C'est une façon de rigoler qui ne nous semble pas naturelle, mais qui est en fait une forme de rire puissance 10 000.
Bon, tché, je ne vais pas vous demander ce que ça signifie. Le bocho.
Le fessier.
Voilà, donc il y a beaucoup de mots comme ça, hein, qui sont des mots qui sont traduits pour les profanes en notes de bas de page, qui sont évidemment très très nombreux dans les dialogues entre les personnages qui se retrouvent dans ce quartier de Château d'Eau. Ils sont arrivés sous votre plume d'une façon naturelle, Asia Julite, ou bien vous avez fait l'effort justement de saupoudrer votre texte de ces mots-là?
Complètement naturel, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer à quel point en territoire francophone et puis en France, on a la chance d'avoir ces langages pleins de vitalité et qui nous sortent de notre routine langagière.
Oui, et ça, c'est vrai que c'est vraiment assez saisissant parce qu'on est vraiment au cœur des dialogues. Hein. Il y a beaucoup de dialogues qui sont pas forcément très très grands, mais qui sont extrêmement vivants. On a vraiment envie de les lire à voix haute. On imagine l'accent du personnage. On imagine aussi sa gestuelle. Vous expliquiez justement il y a un instant que l'oralité, la traduction écrite de l'oralité, vous intéressait particulièrement. Pour quelle raison ?
Je suis passionnée de littérature francophone et je me souviendrai toujours ce moment de ma scolarité assez tardive à l'université où j'ai un cours de master intitulé Littérature francophone du Sud. Et là, je découvre un corpus de textes que je ne connaissais pas et je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne nous propose pas ce type de littérature à l'école primaire, au collège, etc. C'est fondamental.
Alors, vous avez peut-être fait un petit peu comme Clémentine. Alors, Clémentine, on n'en a pas encore parlé, c'est la camarade de classe de Céleste, et elle assiste dans le roman à une soirée de coupé-décalé, et vous écrivez ceci. Clémentine avait observé les attitudes, la nonchalance, les accents et les voix qui virevoltaient dans l'air. Elle avait tout compris des intentions, des gestes, des mots. Pourtant, il y avait quelque chose d'insolite dans cette façon de s'exprimer. Tout était différent et attirant. D'une certaine façon, vous êtes un peu comportée comme Clémentine, alors si je vous entends bien.
Exactement, c'est ça. Et Clémentine incarne cette volonté très respectueuse de comprendre la différence, tout en ne portant évidemment aucun jugement. Et je trouve que c'est un personnage très actif, tout comme Céleste l'est aussi à l'égard de l'univers de Clémentine, qui est bien différent de, du sien.
Oui, alors il y a une vraie, effectivement,
amitié,
curiosité, une vraie amitié entre les deux personnages. Mais alors, Assia Djulaït, certains ou certaines vont peut-être vous dire, mais ouvrir une sorte de procès en appropriation culturelle, comme on dit. C'est-à-dire, est-ce que vous, qui n'êtes pas issu de cette communauté-là, qui n'êtes pas d'Afrique subsaharienne, avait entre guillemets le droit de vous mettre à la place d'un personnage comme celui de Céleste ou peut-être même a fortiori d'un personnage comme celui d'Oumou.
La question de l'appropriation culturelle, je me la suis posée après avoir écrit et je suis très contente de ne pas me l'être posée avant parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas fait.
Vous n'auriez pas commencé.
Exactement. Et donc du coup, j'ai mené ce travail d'écriture sans l'avoir en tête, même si je pense que la question de l'appropriation culturelle pose des questions fondamentales et très intéressantes. Après, il faut aussi évidemment faire attention à pas tomber dans certains excès, puisque sinon on n'écrit plus sur rien si on n'appartient pas.
Le principe même de l'écrivain, c'est de se mettre à la place des personnages.
Effectivement.
Et d'un narrateur.
Quand on m'a posé la question la première fois, après avoir écrit le livre, il y a une réponse qui me paraissait assez claire, c'était de dire que pour moi, tant qu'on veut réparer une forme ou protéger une forme de dignité humaine, j'encourage et je ne me censurerai pas. Et si demain j'ai envie d'écrire sur la communauté indienne, je le ferai. La communauté maghrébine, je le ferai aussi. Puisque je pense que mes intentions d'auteur sont justes, à savoir retranscrire ce que je vois et essayer de porter des voix.
Ça, c'est presque un comportement de journaliste, alors si je puis me permettre.
j'ai été sur le terrain, j'ai pris des notes, j'ai interrogé des gens, donc effectivement, il y a un peu de ça.
Alors, bon, Assia Djulaït, bon, vous avez un nom à consonance, il faut toujours se méfier des noms et des consonances, etc. Mais bon, vous êtes issu d'une autre communauté, comme on dit, la communauté maghrébine. Vous avez des ascendances algériennes, je crois.
Exactement. Mes parents sont d'origine kabyle.
Voilà. Est-ce que, justement, vous pensez que c'est cette origine-là qui a été le point de départ de votre intérêt pour les communautés en général, et donc là, en l'occurrence, la communauté ivoirienne de Paris?
Oui, c'est certain, et je pense que si je n'ai pas commencé par parler de la communauté algérienne, c'est aussi parce que je n'avais pas envie tout de suite de m'exposer.
C'est étonnant, parce que souvent, les premiers romans sont souvent des romans très intimes, très personnels. On a d'abord envie de parler de soi. Vous avez choisi de faire un roman un peu par avant.
Exact. Pas tout à fait, puisque il y a beaucoup de moi dans ce roman, dans Noire précieuse. Simplement, le lecteur ne le sait pas. Et voilà, j'avais envie de proposer un premier roman assez pudique quant à ma personne, essayer de m'effacer, et puis progressivement, là, je suis en train de travailler sur un deuxième roman qui se rapproche de la zone géographique algérienne. Mais j'avais envie de me protéger, oui.
Je pense, et vous ne pouviez pas écrire le roman en disant « je », en vous mettant à la place d'un de vos personnages, en disant « je » au nom de Oumou, en disant « je » au nom de Céleste, au nom de cette noire précieuse.
Non, parce que je voulais garder cette forme de distance respectueuse qui me permettait d'analyser des choses et puis de sortir aussi de la dimension trop émotionnel que le jeu implique parfois.
Mais est-ce que l'écriture est un jeu, alors cette fois-ci J-E-U, c'est-à-dire que vous jouez avec les personnages, vous jouez avec la langue française, et votre langue française, elle est très classique, très pure, très belle, mais elle est mélangée justement avec cette langue très, très, très orale. Vous l'avez vécu comme un jeu, un premier roman ?
Exactement. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman et je pense que si un jour je me réveille et que je ne prends plus de plaisir dans l'écriture, j'arrêterai. J'ai adoré écrire ce roman, mélanger les discours, les tonalités, les courants. Je pense aussi qu'il faut s'autoriser à jouer avec les codes. Et ça rejoint la question de l'appropriation culturelle, essayer de s'éloigner des questions. Hein, et si on me dit ça? Et si je suis taxée de ça? Moi, je me suis amusée et puis j'ai rendu compte de ce qu'on m'a dit et j'ai l'impression d'avoir respecté ce qui m'a été confié.
Vous avez eu des retours justement sur le roman
des
gens de ce quartier du Château d'Eau que vous avez côtoyé pour l'écriture?
Bien sûr, et des retours, j'étais très heureuse de ces retours. J'ai eu aussi des retours d'Ivoiriens qui m'ont dit « mais enfin, c'est pas possible, c'est exactement ça ». Et c'est le plus beau des compliments de me dire « c'est exactement ça » alors que je ne suis pas ivoirienne, alors que je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire et que j'ai imaginé à partir de ce qu'on me disait.
bien et je rends grâce à Dieu. Soyez fort, soyez toujours fort. Il ne faut jamais baisser les bras. J'ai appris à voler de mes propres ailes. Je n'ai jamais compté sur quelqu'un de cette vie. Soyez fort. À la vague, la vague.
Enfant béni, DJ Arafat sur RFI avec la primo romancière Asia Julight pour Noire Précieuse, un super premier roman paru aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Vous citez d'ailleurs cette chanson dans le roman. Alors on l'a dit, il y a la langue très belle, très savoureuse, très très riche. Il y a aussi le décor et cette ambiance dans laquelle vous nous plongez. Par exemple, il y a une scène qui se passe dans un salon de coiffure de ce fameux quartier. Alors là, vous avez été en immersion. Là, on a vraiment l'impression, on parlait de reporter tout à l'heure, on a l'impression que vous étiez la petite souris cachée sous la table.
Pas que la petite souris, j'ai donné de moi-même puisque j'allais me faire coiffer là-bas et puis qu'ensuite j'ai tissé des liens assez forts avec les coiffeuses. Donc j'y allais, je passais, je leur disais bonjour, de temps en temps je me faisais coiffer. C'est extraordinaire parce que c'est réellement comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire qu'on est accueilli comme ça, nonchalamment, on se pose, tout le monde est pris par autre chose, les couleurs, les odeurs, la musique, c'est une immersion totale.
Et les femmes, parce que c'est surtout les femmes que vous avez croisées dans ce salon de coiffure-là, savaient que vous étiez là pour écrire un roman ?
Bien sûr, et j'y tenais dès le début, je leur ai dit voilà, après quelques rencontres, quelques heures passées avec elle. Voilà, j'aimerais prendre des notes sur votre parcours, l'immigration, etc. Est-ce que c'est possible ? Première réaction, on recule. Non, t'es journaliste, etc. Ce que je peux comprendre, puisque beaucoup de ces femmes ont une situation sociale très fragile. Donc j'ai réussi à les convaincre que non. Je leur ai laissé la possibilité de me recontacter et finalement, elles l'ont fait.
Et vous avez croisé une Céleste ?
Non, mais Céleste me fait penser à une amie à moi.
D'accord, qui habite précisément ce même quartier-là, parce qu'on est obligé de se dire, mais comment est-ce que vous avez fait pour entrer dans les interrogations, dans les sentiments, dans les émotions, dans les doutes, dans les espoirs d'une adolescente comme Céleste ?
Alors Céleste ressemble physiquement à une amie à moi. En revanche, ces interrogations, je pense, appartiennent à toutes les petites filles, tous les petits-fils issus de l'immigration. C'est vraiment ce qu'on a en partage et j'ai pas eu à beaucoup inventer puisque c'est réel et c'est aussi ce que j'ai pu ressentir parfois.
Est-ce que Céleste est un Bounty ?
Non, pas de mon point de vue.
Donc Bounty pour noir, les auditeurs. Voilà. Expliquez.
Donc pour les auditeurs, Bounty est une insulte et désigne quelqu'un qui est d'apparence noire mais qui se comporterait comme un blanc. Voilà. Donc trahirait sa communauté en quelque sorte.
Et pourtant, quand elle va au mariage d'une de ses amies ivoiriennes, une commerçante en l'occurrence, elle enfile son boubou comme un costume.
Comme un costume.
C'est un mot très très fort, le mot costume.
Très fort, mais parce que Céleste cherche son identité réellement et que pour elle, ça n'est ni tout blanc ni tout noir justement. Et d'ailleurs, la fin de l'œuvre le dit bien, elle ne choisit pas, elle prend tout, Céleste. C'est réellement comme ça que je la vois. Et aujourd'hui, on nous demande de choisir une identité, une nationalité. Mais en fait, non, il est possible aussi de vivre avec tout ça en nous et d'aspirer à une forme de tranquillité.
Donc il est possible de parler Nouchi, même si Céleste, c'est pas trop son truc, et en même temps de lire L'Assommoir d'Émile Zola.
Tout à fait possible, bien sûr.
Bon, il y a ses interrogations sur ses origines, sur son père absent. Aussi, pourquoi fallait-il que son père soit absent, sur le judaïsme ? Parce que vous avez énormément de thématiques à l'intérieur du roman. On pourrait faire 4 heures d'émission minimum. Pourquoi fallait-il que ce roman soit centré sur les personnages féminins ? Il y en a un autre dont on va parler tout à l'heure, hein, de personnages masculins, mais il passe de façon assez subreptice quand même dans le texte. Vous vouliez faire un roman sur les femmes, un roman de génération féminine ?
Je ne l'ai pas pensé comme ça, mais ce que je vois autour de moi, c'est que les femmes se battent et que ce combat m'inspire. Je ne dis pas que les hommes ne se battent pas, mais en tout cas, dans l'éducation des enfants, elles déploient des forces assez considérables. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre de côté le père de Céleste, c'est que Oumou a été blessée par un homme. Elle ne se remet pas de cette éviction. À cause de sa peau. Et alors, elle essaye de se construire seule et elle sait qu'elle veut être mère. Mais je ne la vois pas souhaiter être épouse. Et ça existe, ce genre de femmes. Malheureusement, elles sont invisibles au sein de la communauté maghrébine, au sein de la communauté noire, etc., puisqu'on considère que la femme se définit par son ventre. Donc que la femme doit porter un enfant. Ça n'est pas le cas d'Oumou, qui veut une fille. Et d'ailleurs, je reviens sur son nom. Oumou est issu de la racine du mot arabe Oum, qui veut dire mère. Et donc, c'est ce qu'elle est. Elle est une mère pour Céleste, mais elle n'est pas une épouse.
Alors, il y a effectivement la question du rapport entre la mère et la fille, qui est vraiment aussi l'un des fils rouges du roman. Est-ce qu'il y a du céleste en vous, Siad Julaïd? Parce que le livre est dédicacé à vos frères et à vos parents. Et vous précisez, sur la dédicace, pour honorer leur sacrifice.
Je pense que la dédicace parle d'elle-même. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que comme Céleste, j'aspire à contredire Zola et à essayer de prouver qu'on n'est pas déterminé par son hérédité.
Donc quand on veut, on peut.
C'est difficile. Oui. Je pense qu'il faut pas tomber dans cette forme de, vous savez, de psychologie facile ou développement personnel, quand on veut, on peut. C'est difficile, il faut être conscient de ce qui existe, du racisme, des inégalités sociales. Mais on peut y arriver, oui, bien sûr.
Et donc pour vous, dans un pays comme la France de 2020, l'ascenseur social, il n'est pas en panne ?
Si.
Ah.
Si, si.
Parce qu'elle y arrive quand même.
Elle y arrive, mais...
Votre personnage va intégrer un très très bon lycée parisien, on va parler dans un instant. Mais enfin, voilà, elle a les moyens de ses ambitions, cette jeune fille.
Mais combien de Céleste existe-t-il contre combien de Clémentine ? Donc évidemment, on a tendance à ériger ces modèles, à dire « Mais si c'est possible, regarde cet élève, etc. » Oui, d'accord. Et les 30 autres de la classe, qu'en fait-on ? Les 30 autres, c'est difficile. C'est difficile pour eux d'y arriver, pour des questions financières, pour des questions géographiques, etc.
Alors Céleste est une fille intelligente, elle va donc fréquenter, comme je le disais, un des plus prestigieux lycées parisiens, alors Henri IV, pour ceux qui connaissent Paris près du Panthéon, Henri IV, on dit H4 hein, quand on fréquente cet établissement. Vous avez fréquenté vous-même, Céleste Julaïd, ce genre de lycée, parce que vous êtes aussi vous-même enseignante, on ne l'a pas encore précisé, mais vous êtes enseignante dans un lycée de Seine-Saint-Denis, dans un lycée de banlieue, qui ne ressemble pas du tout à un lycée comme Henri IV.
Bien sûr. Alors, je ne les ai pas fréquentés en tant qu'élève, mais j'ai fréquenté les quartiers. Donc, je voyais bien ce type d'établissement, etc. J'évoluais dans ces environnements, effectivement, très différents des lycées, des collèges dans lesquels j'enseigne depuis 4 ans, et dans lesquels je vois qu'il n'est pas possible, justement, de s'élever dans tous les sens du terme, parce que des bâtiments qui ne sont pas aux normes, des salles qui ne donnent pas envie. Quand on sort du lycée, on n'a pas cette atmosphère à côté d'Henri IV, vous savez, Saint-Louis, tout est agréable, là-bas, tout donne envie. À Bagnolet et à Montreuil, c'est autre chose. Donc forcément, l'horizon des élèves à Bagnolet et à Montreuil est réduit comparativement aux élèves qui fréquentent Henri IV, par exemple.
Est-ce que vous diriez à vos élèves que Céleste, c'est un modèle pour eux ou pour elles?
En fait, je ne le dirais pas. Mais, puisque je ne formule jamais les choses comme ça, mais je leur donnerai à lire et j'attendrai qu'eux-mêmes me disent « Ah oui, pour telle et telle raison, je l'admire » ou « Ah, pour telle et telle raison, je ne me reconnais pas tout à fait ». Mais effectivement, j'attendrai d'eux. J'aimerais qu'ils se disent « Ah, ça peut être difficile, mais on peut y arriver ».
Oui, mais on peut y arriver, effectivement, oui. À condition, évidemment, de travailler beaucoup.
De travailler, bien sûr.
De mettre toutes les chances de son côté et peut-être aussi d'avoir un petit peu de chance dans la vie aussi.
Moi, je pense pas que c'est une question de chance, surtout pour mes élèves, surtout pour Céleste. Je pense qu'ils bataillent et que certains d'entre eux bataillent deux fois plus que les autres. Donc j'ai du mal à croire à la chance. Malheureusement, je trouve que la chance n'est pas tout à fait de leur côté.
Qu'est-ce que vous pensez, Assia Djoulaïd, justement, des différences sociales qu'il peut y avoir entre une fille comme Céleste et une fille comme Clémentine? Parce que dans le roman, Clémentine est invitée chez les parents de Céleste, dans une maison de campagne, et c'est un sacré choc. Voilà. On se rend compte à ce moment-là que sur un même territoire, en l'occurrence le territoire français, il y a des réalités de vie pour deux jeunes filles du même âge, amies, copines, qui ont plein de choses en partage, deux réalités complètement différentes. On passe d'un monde à l'autre.
Je pense que la découverte peut être a été brutale d'ailleurs pour Céleste. Donc il y a le choc de se dire « Ah, en fait, on peut vivre comme ça et ce comme ça semble mieux, semble plus agréable et on a l'impression que si on vivait dans cet état-là, on aurait plus de chance. » Je pense que ça, c'est douloureux pour beaucoup et je pense aussi à mes élèves que j'emmène par exemple au théâtre, à la Comédie Française et qui me disent « Waouh, mais madame, c'est magnifique » et qui se disent « Oh là là !» Un autre espace est possible, un autre type de vie est possible. Donc je pense que cette prise de conscience est douloureuse, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on se dit, bon, moi j'ai vu, mais ça ne m'intéresse pas, auquel cas c'est très bien, chacun, voilà. Est-ce qu'on se dit, j'aimerais y accéder? Et la question qui se pose, c'est est-ce que si on travaille, on peut y parvenir? Si on travaille et qu'on n'y parvient pas, c'est injuste. Et là, il y a un problème d'égalité.
Mais est-ce qu'ils ont envie, justement, vos élèves en l'occurrence, de franchir le pas, d'aller justement à la conquête de cet autre monde? Parce que lorsque la mère de Céleste apprend qu'elle est invitée chez les parents de Clémentine, elle veut pas qu'elle y aille. Elles disent non, reste chez toi, c'est pas ton monde, quoi. Donc c'est
bien sûr, mais du coup c'est lié à des peurs de l'autre monde, mais c'est pas lié à une réalité sociale ou économique. Je pense que ça n'est pas le mode de vie d'Oumou, mais je pense qu'elle aimerait avoir un espace comme ça, un jardin, qu'elle aimerait s'extraire de temps en temps de sa vie parisienne. Ça oui. En revanche, je pense qu'elle dit non parce qu'effectivement elle a peur et puis qu'il y a cette scission entre quartiers. Entre la capitale et les banlieues, etc. Et malheureusement, on n'arrive pas à surmonter ça encore. Donc je pense que le refus est lié, n'est pas lié à une condition économique. Il est plus lié à une culture.
Est-ce que vous avez l'impression que la France est en train de s'archipéliser, pour reprendre le titre d'une grande étude sociologique qui a eu beaucoup de succès en France il y a quelques mois? On est en train, comme ça, de vivre dans une société fragmentée?
Oui, je pense que les écarts se creusent fondamentalement. Et je m'en rends compte très bien, puisque moi j'habite dans le 20e arrondissement, à Porte des Lilas, à 10 minutes de mon établissement à Bagnolet, et que certains de mes élèves n'ont jamais franchi le seuil Bagnolet-Paris, et me disent « Madame, Paris, c'est trop loin », alors qu'on est à moins d'un kilomètre. Donc évidemment que la conception de l'espace, la vision que les jeunes, que mes élèves ont de l'espace, est complètement biaisée.
Voilà, l'archipel français, hein, livre de Jérôme Fourquet, je le précise. Alors on va retrouver votre personnage, on va retrouver donc Céleste. La scène se passe justement chez les parents de Clémentine, en province, comme on dit, ou en région, comme
Grégoire.
Avec Grégoire. Grégoire, c'est le Bon, c'est celui dont elle est un petit peu amoureuse, quoi. Hein. Pas qu'un petit peu, sauf qu'elle est amoureuse en secret. Elle n'ose pas trop lui dévoiler ses sentiments et elle va subir un énorme chagrin. Nous sommes page 134 de votre roman. Les jeunes jouent à action ou vérité.
Tout le monde se serra autour de la table, au milieu de laquelle régnait la bouteille qui désignerait les victimes. Clémentine se mit à la droite de Céleste et Grégoire à sa gauche. Ils n'avaient jamais été aussi près l'un de l'autre. Sans prévenir, Grégoire se rapprocha du cou de Céleste et lui dit sans détour qu'elle sentait bon. Ces paroles n'avaient pas échappé à Clémentine, qui pinça la jambe de Céleste sous la table. Ce geste et cette parole transformèrent l'espoir de Céleste en certitude. Ce compliment était une promesse. Il fallait vite y répondre. Elle s'empressa de dire
« Il est cool ton polo !»«
Ah, merci !»
Noé fit tourner la bouteille. Les premières questions furent sans grande conséquence. Le cœur de Céleste souleva lorsque la bouteille la désigna. Elle avait voulu abandonner le jeu, mais elle était finalement restée pour Grégoire. Elle choisit de dire la vérité. Non, elle n'avait pas encore eu de relation sexuelle. Les corps commençaient à s'amollir dans l'air et sur la table. Grégoire choisit une action. Astrid imposa alors
« Tu dois embrasser une fille ici. »
« T'abuses. »
« Allez !»
Céleste jubilait d'avance et se préparait à recevoir le baiser tant souhaité. Elle regrettait que ce soit si peu intime et exigé par un jeu, mais c'était mieux que rien. Elle humidifia ses lèvres lorsque Grégoire se tourna vers la droite.
« Prête ? Non, pas toi. Je parle à Clem. »
trancha-t-il. Le visage de Céleste se décomposa d'un bloc. Clémentine refusa, profondément peinée pour son amie, qu'elle savait dévastée. Grégoire jeta rapidement un coup d'œil autour de la table. Il avait regardé tout le monde, sauf Céleste. Il se rabattit sur Astrid, ce qui creusa l'incompréhension générale. Comment pouvait-il préférer embrasser Astrid ? Pourquoi elle plutôt que Céleste ? Pourquoi elle plutôt que Céleste ? Astrid, la vulgaire, la frimeuse, la sointante, la géniarde, l'idiote, la terrestre, la blanche.
Voilà, scène du racisme ordinaire, pourrait-on dire, Sage Light, même racisme peut-être pas du tout intellectualisé, quoi.
Bien sûr.
Racisme instinctif.
Instinctif, qui ne se dit pas, mais qu'on peut ressentir, évidemment, et Céleste est face à une incompréhension, puisqu'elle se dit, mais objectivement, tout le monde pense que je suis mieux, donc c'est un moment vraiment juvénile. Tout le monde pense que je suis mieux qu'Astrid. Alors pourquoi ? Mais ça, on peut l'étendre à beaucoup de situations. C'est-à-dire, voilà, on se présente à un entretien d'embauche. Sur le papier, j'ai fait tel établissement. Pourquoi cette personne est prise et pas moi ? Donc, effectivement, ce sont des incompréhensions. Parfois, je me demande si parfois on peut effectivement mettre le mot de racisme sur ça. Mais en tout cas, des choix qui posent question ensuite.
Est-ce que vous êtes favorable à la discrimination positive ?
Oui, oui, je le crois.
Vous avez beaucoup réfléchi quand même.
J'ai beaucoup réfléchi parce que je pense que on peut avoir des avis assez mouvants et il n'est pas dit que demain j'ai changé d'avis. Mais oui, je le crois jusqu'à temps que qu'une forme d'équité soit rétablie, bien sûr. Et je pense qu'on doit adopter des mesures antiracistes. Ça, c'est évident. Antidiscriminante et la discrimination positive, même si ça n'est pas une mesure parfaite, loin de là, peut être un outil.
Alors je le disais tout à l'heure, Sage Light, il y a assez peu de personnages masculins dans votre roman, parmi les personnages les plus importants en tout cas, à une exception près, le personnage de Bosso. Bosso, c'est presque une parenthèse dans le roman. Est-ce que Bosso, c'est un perdant ?
C'est un perdant aux yeux de la communauté, un peu comme Céleste est mise entre parenthèses par la communauté. Mais je le trouve puissant d'enseignement, Bosso, même si il n'occupe que quelques lignes au sein du roman.
Mais c'est un moment très très fort. Alors Bosso, exactement. C'est celui qui a tenté le voyage, qui a tenté la migration et qui a échoué. Et qui est passé par des phases extrêmement difficiles hein, pendant ce voyage. Donc on pourrait se dire que c'est un héros, qu'il a Exactement. Eu le courage de partir, qu'il a eu la possibilité de franchir les différentes étapes extrêmement douloureuses pour lui. Et il fait une erreur.
Bien sûr, il fait l'erreur de revenir. Et c'est le grand drame de tous les candidats à l'immigration, que ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Le fait de revenir... c'est signé pour le déshonneur de la famille, c'est signé pour la malédiction sur soi et sur ses descendants. Donc c'est difficile. Son parcours a été difficile, son retour l'a été tout autant.
Donc tu dois réussir ou tu meurs, quoi.
Exactement.
C'est quand même une phrase qu'on lit quasiment texto comme ça dans le roman. Mais c'est d'une violence extrême.
Mais c'est réel. J'ai rencontré beaucoup d'Africains d'Afrique subsaharienne à Paris qui me disaient que qu'envisager de retourner, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont réussi le pari de l'immigration, ils sont insérés, mais ils trouvent que c'est difficile, ils aimeraient retourner, mais c'est impossible pour leur famille, pour l'honneur de la famille.
Alors en quoi ce chapitre, ce court passage sur ce destin justement de migrants, chapitre, je le répète, assez dur, était-il indispensable? Pourquoi vous avez besoin de raconter le destin de Bosso dans votre récit?
Parce que il fait écho au moment où Bosso, plein de confiance en lui, disait à Oumu « Je vais partir, je ne te considère même pas », alors qu'elle était à ses pieds. Et finalement, le roman s'achève sur, on pourrait le dire, une forme de victoire d'Oumu qui revient avec sa fille, qui est pleine de réussite et qui va revoir Bosso. Et donc là, c'est des points de suspension, mais qui va le revoir puisque Bosso est censé la retrouver à l'aéroport. Et que va-t-il se passer? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que Bosso sera un peu plus humble que ce qu'il n'était lorsqu'il a rencontré Oumu.
Alors, c'est vrai que la fin, ou plutôt les fins, parce qu'il y en a plusieurs, les fins sont ouvertes à Sadjulait. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite au roman, une Noire Précieuse 2? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est tout simplement pour que vous dites, le lecteur fera ce qu'il voudra de mon histoire?
C'est volontaire et j'aimerais laisser passer quelques années pour éventuellement effectivement continuer ce roman et pouvoir parler de ceux qui ont fait le choix, donc des Français d'origine d'Afrique subsaharienne qui ont fait le choix de retourner dans leur pays d'origine pour faire leur vie là-bas.
Merci beaucoup aussi à Julie d'être passée nous voir. Très beau roman que ce Noire Précieuse, paru, je le rappelle, dans la collection Continent Noir chez Gallimard. Merci encore et bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Assia Julie.
On brouille dans nos cœurs plus vieux, la vue se brouille dans nos yeux amoureux, la vue se brouille.
Présenter aujourd'hui Alain, Élodie Milo, là on entend hors de nous, Élodie Milo, autrice, compositrice, interprète, née à Paris.
Et qui va se perfectionner 5 années durant au Venezuela sur les routes d'Amérique latine. À son retour dans l'Hexagone, elle joue à la fois de la guitare électrique, explore la danse-théâtre, elle chante sur un cheval au galop et danse le tango dans les flammes. Aujourd'hui, dans son mini-album, Sous la lune, elle fredonne les chants de la terre, de l'air et de l'eau. À quoi ressemble-t-il?
Ça, je peux pas le décrire avec des mots. Je pense que quiconque entend le chant de la terre, de l'air ou de l'eau a des frissons qu'il parcourt et sait au fond de lui qu'il est en train d'entendre chanter quelque chose de sacré. Je peux pas le décrire autrement.
Elle baise le front des fils endormis, étreint son homme. Une dernière nuit, ferme doucement la porte.
Élodie Milo, l'air.
Des airs qu'elle fait résonner pour la majeure partie en français, pas en ouchi en revanche, même si je sais dire Yesu Poissy, qui veut dire je suis bien installé ici, mais elle le fait résonner parfois aussi en espagnol.
En fait, l'espagnol, c'est une langue qui prend toute la bouche. C'est une langue qui se parle avec la bouche entière, avec, c'est une langue qui se croque, qui se mange, et pour moi c'est la langue du ventre, c'est une langue très, très sensorielle. Le français...
Vous pouvez le dire en espagnol ça pour voir la différence?
El español es un idioma que se come con toda la boca, que se habla con la boca entera. Es un idioma que se come entero y que se come con el vientre, y es lo que me encanta.
Muchas gracias.
De nada, un placer. Le français pour moi, il se parle et il se chante plus du bout des lèvres, et c'est aussi quelque chose de très intéressant. Mais ça fait appel à d'autres parties de moi.
De luna al sol, cantando las penas voy, semilla de luna soy, bailando mi vida voy, semilla de luna soy, cantando las penas voy, semilla de luna soy.
Emilia de Luna, Elodie Milo, qui peut toucher un public espagnol avec ce genre de titre, voire hispanophone en Amérique du Sud, États-Unis, où elle compte déjà des fans, n'est-ce pas Elodie?
Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites?
C'est moi qui pose des questions.
Je suis très heureuse en tout cas de savoir que même aux États-Unis, avant même que l'EP soit sorti, il y a l'envie, une demande. Cette personne m'a même écrit que voilà, elle l'écoute tous les jours depuis qu'elle l'a reçu, et ça me fait plaisir. Et puis ça raconte bien aujourd'hui comment la musique peut circuler partout grâce à des outils comme Bandcamp par exemple, où les artistes comme moi, indépendants, on peut mettre notre musique et puis d'un seul coup faire qu'elle tombe sur quelqu'un à l'autre bout du monde. Je trouve ça assez magique.
Ta peau m'aspire et je fonds et je fume, je coule les glisses au fond de la brèche. Ta peau inspire chaque pore, chaque dune de mon corps qui s'embrasse et t'allège.
Elodie Milo, ta peau sur RFI. Alors, d'où elle est partie l'idée de ce morceau-là?
Il est né de l'envie de parler du désir d'un point de vue féminin, Jean-François, de raconter ce qui brûle et comment cela brûle quand le désir prend le pouvoir et le pas sur tout, et que l'on laisse faire comme il le veut. C'est une invitation à le savourer pour ce qu'il est, sans impliquer forcément une promesse de plaisir.
Elodie Milo qui offre ses talents d'écriture et de chant à d'autres aussi.
Au sein du collectif Des Liens, à l'initiative de Dominique A, il y a 4 ans.
Alors le collectif Des Liens, ce que j'en retire, c'est de beaux moments avec la grande Sophie, avec Achille, au centre d'hébergement Louvel-Tessier. On a donné un atelier. Et puis, plus que l'expérience, c'est l'avenir qui est important, puisqu'on se réunit justement demain à Nantes, avec tout le monde, avec Dominique, avec tous les musiciens du collectif, et on va mettre en place les projets pour cette année. Notre idée, c'est d'intervenir le plus possible auprès de personnes en situation de fragilité sociale, en donnant des concerts, des ateliers, et cette année, on prépare quelque chose avec le Palais de la Femme, pour justement proposer aux résidentes de créer des chansons avec nous.
C'est sous la lune.
Elodie Milo, Sous la Lune, qui donne le nom à ce mini-album sorti chez Rancho All Star et Absilon Technology. Merci Alain, à demain.
À demain.
Nouvelles.